Bonjour à tous. Je vous propose sans tarder d'ouvrir la parole dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Nous allons voir l'histoire de deux hommes qui ont rencontré Jésus et qui ont démontré une bonne attitude. J'avais à cœur de prendre ces deux bons exemples. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de prendre un mauvais et un bon, mais là j'avais à cœur de prendre ces deux bons exemples-là qui nous montrent justement à comment s'approcher de Jésus. Et nous verrons ce soir que peu importe nos conditions. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, nous allons lire une histoire. Alors on va lire dans deux évangiles, mais c'est la même histoire qui se poursuit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Les mêmes qui le repoussaient lui l'encouragent. Il y en a qui retournent vite leur veste. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, ce qui signifie « maître », lui dit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Comme on l'a chanté, il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Nous prenons la suite de cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 19, verset 1er. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pêcheur. » Bon, on voit qu'ils ont retourné leur veste tout à l'heure avec Bartimée, mais finalement à l'intérieur, ça n'avait pas vraiment changé. Ils continuaient d'avoir ce regard accusateur sur ceux que Jésus guérissait, sur ceux que Jésus croisait. Ils avaient toujours ce regard plein d'accusations. « Il est allé loger chez un homme pêcheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Les autres fils d'Abraham, de qui il s'agit d'ailleurs, ce que Jésus dit, c'est aussi un fils d'Abraham. Et compte tenu de ce que nous venons de lire, moi j'ai l'impression que les fils d'Abraham, dans ces deux histoires-là, ils ne sont que deux, à savoir Bartimée et Zachée. La foule, visiblement, a un comportement particulier, assez versatile. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que d'abord, Jésus, il s'apprête à rentrer dans une ville qui est significative pour les Juifs, c'est Jéricho. Jéricho, c'est une ville pleine de paradoxes. C'est une ville avec tout plein d'abondance. La ville des palmiers, elle est appelée comme ça. Mais c'est une ville où tout arbre pouvait croître sans effort. C'est une ville où les arbres d'hiver côtoyaient les arbres d'été. C'est remarquable, c'est le seul endroit, de ce que j'en sais, sur la Terre qui le permet. C'est un climat méditerranéen très spécifique à la région qui permet aux arbres d'hiver comme d'été d'être ensemble. C'est remarquable. Ils avaient du fruit de ces arbres-là en toute saison. C'est une ville où il y avait une abondance particulière. C'était une oasis. Là où il y a des palmiers, ça s'appelle ni plus ni moins une oasis. Jéricho était cette ville où il y avait de l'abondance matérielle. C'était une ville aussi qui était passante, parce que cette ville-là était un point, on va dire, central pour monter à Jérusalem. Pour monter à Jérusalem, il y avait une route et elle passait par Jéricho. Donc, en général, quand on venait d'ailleurs et qu'on voulait monter à Jérusalem, on passait par Jéricho. Par rapport à ce que je disais sur cette ville, elle était aussi mixée, cette ville, parce que c'était une ville où les Romains y avaient mis leur... Hérode le Grand avait fait construire un palais, il avait même fait construire un hippodrome. Donc il y avait une certaine richesse, en plus de l'abondance naturelle, il y avait une certaine richesse, et il y avait d'ailleurs, comme elle était proche de la frontière, un centre de péager où pour rentrer, il fallait payer. Et on voit qu'Osachée est même le chef de ces péagers. Donc, c'est une ville où il y a de l'abondance naturelle, il y a de l'abondance matérielle, il y a de l'argent qui circule. C'est une ville où il y a vraiment une abondance qui me fait penser finalement à la société dans laquelle on vit. Nous sommes dans une société où il y a l'abondance, nous sommes dans une société où, effectivement, on ne manque de rien. Je parle d'ici, hein. Effectivement, il y a des pays où ce n'est pas le cas. Mais là, nous sommes à Toulouse et je vais prêcher pour les Toulousains. Nous sommes dans une ville où il y a l'abondance. Et pourtant, le Seigneur Jésus a prévu de passer à Jéricho. Et je crois, je suis convaincu, que Jésus a aussi prévu de passer parmi nous ce soir. Le Seigneur Jésus veut venir ici pour te bénir. Le Seigneur veut être là ce soir pour te faire du bien, au même titre qu'il a fait du bien pour Bartimée, pour Zachée. Le Seigneur est là et il veut te faire du bien. Jéricho est aussi, dans ce mixage, une ville qui, par les Juifs, est très mal vue, ça il faut le dire. Jéricho, c'est quoi ? C'est la ville maudite. C'est la ville qui a été la première à être affrontée par Israël quand ils sont rentrés dans Canaan. C'était la première opposition. En même temps, c'est la ville où Dieu a complètement donné la victoire sans même combattre. Il y a eu, probablement, pour que les murailles s'écroulent, j'imagine, peut-être, c'est mon interprétation personnelle, un tremblement de terre. Mais les murailles se sont écroulées et les habitants de Jéricho n'ont rien pu faire. Et cette ville a été maudite. Et elle a été reconstruite. Et ceux qui l'ont reconstruite l'ont payée. C'était une ville où tout était mixé aussi. D'un point de vue, déjà, les Juifs, les Romains, certains travaillaient pour les Romains, donc ces Juifs-là étaient mal vus par les autres Juifs contemporains parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. C'était une situation particulière quand même. Tout Israël était occupé et forcément ceux qui collaboraient avec les Romains étaient mal vus. Donc on voit bien que Zachée, en ce qui le concerne, pouvait être mal vu des autres Juifs. Il y a un signe qui est aussi intéressant, c'est que Jéricho, c'est une ville qui est tout en bas, au sens même que c'est une ville qui était même plus bas que le niveau de la mer. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que Jésus, il va tout en bas. Il va dans l'endroit qui est tout en bas. Et dans l'endroit qui est tout en bas, il va chercher celui ou celle qui est tout en bas. Bartimée, pourquoi j'ai choisi de prendre dans l'évangile de Marc? Les deux sont intéressants, Bartimée et Zachée, parce qu'ils ont un point commun tous les deux, c'est que eux se retrouvent nommés dans le seul évangile où ils se trouvent. Et avant de monter à Jérusalem, vous savez, Jésus monte à Jérusalem pour quoi faire? Parce qu'il va aller mourir pour donner sa vie. Il va donner sa vie, il va mourir sur la croix pour donner sa vie pour tous les hommes. Mais en passant par Jéricho, il s'arrête pour des personnes en particulier. Et chaque évangéliste, Marc va parler de Bartimée, Luc va parler de Zachée, chacun a ses raisons de donner les noms. Mais on y voit que Dieu s'intéresse à nous personnellement. Il vient dans notre ville pour venir nous voir, nous. Et la décision de rencontrer Jésus est une décision personnelle. On voit bien d'ailleurs que la foule est là, mais on a plus l'impression qu'elle fait partie du décor, voire même elle a essayé de freiner l'action de foi de ces personnes. La foule a vraiment un rôle qui est mineur et qui même contraire à ce que Dieu voudrait faire. Après, Dieu sait toute chose et il maîtrisait la foule. Et ça n'a pas empêché l'action de Dieu. Mais chacun y trouve son nom dans son évangile. Jésus est descendu à Jéricho tout en bas pour aller chercher Bartimée. Jésus est allé tout en bas dans la ville de Jéricho chercher Zachée. Et Dieu est venu tout en bas sur cette terre chercher Olivier, chercher Nicolas, Gaël, Michael, tous. Par notre nom, le Seigneur nous veut à lui. Le Seigneur nous veut à lui. Et il nous connaît personnellement. Le Seigneur connaît toute notre vie. Avant même que nous soyons venus au monde, la Bible dit que, avant, alors que je n'étais qu'une mince informe, tu me connaissais déjà. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te connaît. Dieu connaît ton caractère. Dieu connaît tes aspirations. Dieu sait aussi si tu lui appartiens ou pas. Et ce soir, si tu es là, c'est peut-être pas un effet du hasard, moi je n'y crois pas, mais c'est peut-être le moment de rencontrer celui qui a donné sa vie pour toi. Revenons à Bartimée. Son nom est assez... J'ai beaucoup cherché pour savoir ce que ça voulait dire. Bartimée, ça veut dire « fils de Timée ». Ça, c'est ce qu'on l'a lu dans la Bible directement. Mais alors je suis allé plus loin, je me suis dit « mais Timée, ça veut dire quoi ?» Timée, c'est un nom grec. Qui a été hébraïsé, qui veut dire honoré. Donc, Bartimée, déjà, on ne le connaît que par le nom de son père. Vous savez, quand on est nommé fils d'eux, ce n'est pas toujours agréable. Quand on est fils de quelqu'un, ce n'est jamais agréable à porter. On le voit bien dans le monde du showbiz, ou dès qu'une personne est connue, ou dans le monde du sport, les gens fils d'eux, ils ont du mal à porter ce nom-là. Et Bartimée, il porte un nom très honorable et a une situation qui est tout sauf honorable, qui est en plein paradoxe avec le nom même qu'il porte. Il porte le nom de quelqu'un qui, est-ce que c'était son père, est-ce que c'était son grand-père, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet homme-là, un jour, a été honoré. Donc, dans sa famille, dans ses origines, il y a quelque chose qui montre qu'il y a eu de l'honneur. Alors, est-ce que c'était de l'honneur aux yeux de Dieu? Est-ce que c'était de l'honneur aux yeux des hommes? Ça, on n'en sait rien. Mais dans son nom, il le porte. Et ce n'est pas sa réalité de tous les jours à cet homme-là. Bartimée, c'est un homme aveugle. C'est un homme qui est laissé pour compte, qui est sur le bord du chemin et qui mendie. C'est un homme qui est dépendant des autres. C'est un homme qui vit dans une terre qui est tellement riche, et pourtant lui qui est si pauvre. On peut être dans cette société-là, pleine de richesses, de matérialisme, et pourtant se sentir dans une pauvreté extrême. Cette pauvreté-là, vous savez ce que c'est? C'est ce vide en forme de Dieu qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ça, c'est la pauvreté qu'il nous faut reconnaître avoir. Nous sommes tous comme Bartimée. Peut-être sommes-nous dans une région ou dans une situation où nous n'avons rien à avoir besoin, on a besoin de rien peut-être. Mais nous sommes quand même tous pauvres, comme Bartimée. Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque le Saint-Esprit en nous. Il nous manque la vie de Jésus dans notre cœur. Et cet après-midi, et ce soir peut-être que tu es dans cette situation. Tu es dans une certaine vie, mais tu es pauvre. Tu es comme au bord du chemin. Parce que tu as aussi besoin de voir clair. Et tant que tu n'y vois pas clair, tu resteras pauvre. La pauvreté était liée à l'époque à l'infirmité physique, notamment. Celui qui était aveugle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Et dans la Bible, on voit tous les aveugles mendier. C'est comme ça. Et celui qui n'a pas rencontré Dieu, celui qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, est dans la même situation. Il est dans une pauvreté extrême. Mais le Seigneur veut te donner. Lui, il est celui à qui tout appartient. Il est celui à qui toute la grâce appartient. Il veut te donner la grâce. Il veut te combler. Il veut que tu puisses dire, j'ai tout pleinement en Christ. Et il l'a fait en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour toi. Pourtant, Bartimée, aussi aveugle qu'il était, il voyait quand même pas mal. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui approche. Et il appelle Jésus, fils de David. Bartimée savait qui était Jésus et il n'a pas eu besoin qu'on lui en dise beaucoup pour comprendre que Jésus était quelqu'un de particulier, pour comprendre que Jésus était venu sur la terre pour sauver les hommes. Il avait reconnu en Jésus une autorité royale parce qu'il l'appelait fils de David. Et quand il parle à Jésus, il l'appelle Rabouni, il l'appelle maître. Ça veut dire que Bartimée, malgré son état, il y avait quelque chose à l'intérieur qui était très bon. Il y avait quelque chose à l'intérieur de Bartimée qui était déjà agréable à Dieu. Et sa démarche même était agréable à Dieu. Bartimée, c'est quelqu'un qui a été persévérant. Cet aveugle, on lui dit de se taire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crie encore plus fort. Il ne perd pas courage à cause de la foule. Il continue, il est persévérant. Il a soif de rencontrer Jésus. Il a soif de faire une expérience avec lui. Et il sait que Jésus est là, c'est le fils de David, c'est lui qui a l'autorité de Dieu. Et il sait que Jésus peut le sortir de sa situation. Et sa persévérance va payer. Sa violence, je dirais, va payer. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et là, nous en avons un bel exemple de celui qui, malgré les découragements de l'un, de l'autre, de la foule, des autres, il continue, il est droit dans ses bottes. Et il continue, et il recherche Dieu, et il implore Dieu de tout son cœur. Peu importe le ridicule, peu importe tout ça, il a son idée en tête. Il veut obtenir quelque chose de Jésus. Et il va l'avoir parce qu'il a la foi. Il a reconnu Jésus. C'est intéressant de voir que Jésus, justement, était en train de monter à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, à l'entrée, il va être accueilli comme ça aussi. Mais il y avait Bartimée qui, avant tous les autres, avait appelé Jésus fils de David. Lui qui était aveugle, il voyait déjà. Jésus est venu pour révéler, pour faire en sorte que ceux qui croyaient voir ne voient pas et que ceux qui ne voyaient pas voient. C'est comme ça la logique. Celui qui croit qu'il est riche, celui qui croit qu'il possède, celui qui croit qu'il comprend, en fait, il ne comprend pas. Celui qui accepte le fait qu'il a besoin de la grâce de Dieu, celui qui accepte de ne pas connaître la parole, de ne pas connaître certaines choses, alors Dieu lui révélera. Dieu lui ouvrira les yeux. Et si ce soir tu es dans cet état d'esprit-là, sache que le Seigneur veut ouvrir tes yeux aussi. Il veut que tu puisses comprendre, il veut que tu puisses aller plus loin dans la découverte de qui il est. Dieu veut se révéler à ton cœur. Si tu as ce cœur ouvert, si tu as ce cœur prêt à chercher Jésus de tout ton cœur. Maintenant, Zachée. Zachée, ça vient de Zacharie, qui veut dire aussi « l'Éternel s'est souvenu ». Zachée, c'est pareil. Finalement, il a des choses qui ressemblent à Bartimée. Zachée, à l'inverse de Bartimée, cette fois-ci, est un homme riche, très riche. Mais lui aussi est un laissé pour compte. C'est quelqu'un qui est accusé, c'est quelqu'un qui est méprisé. On l'a lu, la foule, malgré qu'elle ait pu remarquer s'être trompée par rapport à Bartimée, qu'il ne fallait pas le rejeter parce que Jésus lui a dit de venir. Cette même foule, quand il s'agit de s'occuper de Zachée, critique Jésus parce que Jésus dit « il faut que je demeure dans ta maison ». Zachée était quelqu'un de mal vu, était quelqu'un de collaborateur. Pour ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a personne ici qui l'a vécu. Mais ça parle, ça, ce terme-là. Zachée était ce type de personne, vu par ses contemporains. Zachée, comme il était et travaillait avec les Romains, était perçu comme quelqu'un d'impur. Or, à l'époque, les Juifs ne côtoyaient pas ces personnes-là. Ils ne se mélangeaient pas. Et Jésus, lui, il va y aller. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a? Il a tout pour être heureux, lui. Non seulement il est dans cette ville riche, comme nous l'avons vu, mais lui-même est riche. Il est plein d'argent. Il peut faire ce qu'il veut. Et il est l'image de l'homme d'aujourd'hui, où nous aussi, nous sommes dans cette situation, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons avoir accès, quand on compare notre simple situation à celle de ces enfants en Éthiopie ou en Somalie, je ne sais pas, ne sommes-nous pas riches? Nous sommes dans une telle abondance. Et pourtant, dans ce pays de France, il n'y a jamais eu autant de solitude. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui prenaient des médicaments parce qu'ils ne vont pas bien, parce qu'ils n'ont pas le moral, parce qu'ils sont en pleine dépression, parce que leur vie va mal jour après jour et ils ont l'impression de s'enfoncer. Pourtant, tout est là pour être heureux. Il y a l'abondance matérielle. Comme quoi, l'abondance matérielle, elle est là, c'est bien, mais elle n'est pas là. C'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est d'avoir ce cœur dans la joie, ce cœur dans la paix. Ça, ça n'a pas de prix. Combien de personnes sont même très connues et vivent mal, sont célèbres, et puis ont tout ce qu'elles voudraient, et en viennent à se suicider. Vous l'avez tous vu comme moi. Comment ça se fait que ces personnes qui soient dans une telle abondance en arrivent à se suicider? Elles ont tout ce qu'elles veulent. Elles ont la célébrité, elles ont de l'argent, elles ont de riches propriétés. Tout est là. L'abondance est là. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas chez ces personnes, c'est la même chez tous les hommes, chez toutes les femmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce vide en forme de Dieu, cette paix qui n'est pas là, parce que on sent très bien à l'intérieur que quelle que soit la situation, que je sois riche, que je sois pauvre, c'est pareil. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas et qu'il faut absolument résoudre. Zachée est un homme seul malgré sa richesse. Il est tout seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre sans Dieu. Ça, déjà, avoir Dieu dans notre cœur, ça comble beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans un temps où le mot communication n'a jamais été autant prononcé. On est à la communication 2.0, comme on dit. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai vécu une scène un peu cocasse où il y avait une salle où on était tous à faire la salle des ordinateurs. Et puis, j'étais en train d'être sur mon ordinateur. Tout d'un coup, je vois deux jeunes qui sautent comme ça, mais avec un sourire aux lèvres. On dit, mais. Et qui étaient en train de s'embrasser, etc., de se prendre dans les bras. Et j'ai compris après ce qui s'était passé. Ils étaient chacun sur leur ordinateur, sur un serveur de chat. Et puis, voilà, ils faisaient connaissance à distance. Mais tu es où? Ah, mais je suis en France. Ah, toi aussi. Tu es où? Mais tu es où en France? Ah, je fais mes études à l'Orient. Ah, t'es là, moi aussi. Mais tu fais quoi? Ah, je fais ça. Ah, ben, moi aussi. Et là, ils se sont retournés et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de communiquer. Ils se sont dit bonjour sur le PC, mais quand ils se sont croisés en vrai, ils ne se sont pas dit bonjour. Ça, c'est la communication d'aujourd'hui. Alors, c'est remarquable d'avoir vécu ça quand même, parce que ça nous ouvre les yeux sur ce que nous sommes aujourd'hui. Dans ce temps où on a des réseaux sociaux qui permettent d'avoir des amis, entre guillemets, et qui permettent d'avoir des tonnes et des tonnes d'amis, moi je pense pas qu'on puisse avoir de vrais amis au-delà de 10, mais en général, les vrais amis, comme on dit, on les compte sur les doigts d'une main. Et nous sommes dans une période où tout est fait pour que nous nous sentions seuls. Je veux pas faire le nostalgique, mais avant, quand on faisait nos courses, on allait au marché, on allait acheter nos légumes, chez un marchand, on allait chez l'épicier, on avait le livreur du lait qui venait à la maison, on avait le fromager, on avait le charcutier, on avait tout ce qu'on voulait s'acheter impliquait une communication avec quelqu'un. C'est pareil dans les services du pays, il fallait forcément communiquer avec quelqu'un. Aujourd'hui, tout est fait pour que chacun reste dans son coin. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nous fait pas de bien. Parce que la solitude, elle est bonne pour personne. Zachée est dans cette solitude-là. Il est dans une solitude où, malgré sa richesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il apprend que Jésus va passer, là, ses yeux s'illuminent comme un enfant. Et j'aime l'attitude de Zachée. Zachée, il ne va pas regarder au ridicule. S'il faut monter dans un arbre, eh bien, il monte dans un arbre. C'est une réaction presque enfantine. C'est les enfants qui montent dans les arbres. Zachée, lui, il n'a pas peur de ce regard-là. Il va dans l'arbre parce qu'il veut voir Jésus absolument. Zachée, il veut absolument connaître celui qui pourrait combler son vide, celui qui pourrait combler justement ce manque qu'il a en lui, ce problème de solitude. On voit d'ailleurs que Alors que Jésus va lui dire, Zachée, descends de l'arbre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, tout de suite, il va vers les autres. Si j'ai pris Alain de l'argent, alors je lui rendrai 4 fois plus. Il est prêt à réparer son erreur. Et tout de suite, il se tourne vers les autres. Et tout de suite, des liens vont commencer à se faire. C'est la rencontre avec Jésus. C'est de là, Bartimée et Zachée avaient une détermination. Il y en a un qui mendiait, il y en a un qui était riche, peu importe. Ce qui est important, c'est leur cœur. Ils étaient prêts à tout pour voir Jésus. Ils étaient prêts à tout pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Et ils ne se sont pas relâchés, ils ont tenu ferme, et ils ont persévéré dans la foi, et leur foi les a bénis. Bartimée a retrouvé la vue, Zachée a pu voir Jésus venir dans sa vie, demeurer chez lui. Quel enseignement on peut voir ? Jésus, j'aimerais le rappeler, est sur le chemin qui va l'amener quelque part, où il va donner sa vie. Jésus connaissait Zachée, Bartimée. On pourrait regarder d'ailleurs ce que dit Luc. Luc, au chapitre 19, verset 9, on va reprendre ce verset. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, pour les Juifs, ça signifiait beaucoup de choses. Ça voulait dire que c'était quelqu'un qui était héritier d'une promesse excellente. Et Zachée était celui qui, comme Abraham, a marché par la foi. Le salut s'obtient par la foi. La réconciliation avec Dieu s'obtient par la foi. Le salut ne s'obtient pas par les mérites, par nos propres œuvres. C'est pas parce que on va faire des bonnes œuvres, c'est pas parce qu'on va donner à des choses sociales, c'est pas parce que on va prendre du temps, même à lire la Bible, je dirais. On peut lire la Bible en se disant, mais je vais lire la Bible, comme ça je vais être sauvé. Mais non. Si on le fait avec cet état de cœur-là, ça ne va pas marcher. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête, droit, sincère devant lui, parce que le salut ne s'obtient que par la grâce unique de Dieu. Dieu veut nous donner ce salut, parce que Jésus est mort pour ça. On ne peut pas l'acheter, ce salut, parce qu'il a coûté trop cher, il a coûté le prix de la vie de Jésus. Et encore, il a donné sa vie, a pris tellement de souffrances. Le prix que Jésus a payé, il est bien élevé. Il est trop élevé pour qu'on puisse se l'acheter. À l'inverse, ce salut nous est proposé. Mais comme le disait ce chant juste avant que je vienne, il nous est important de voir comment nous nous positionnons par rapport à ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu t'offre le salut. Jésus est mort pour toi sur une croix. Il a souffert. Son sang a coulé, a été versé jusqu'à la dernière goutte pour que tu puisses être sauvé. Et si tu le refuses, tu méprises un cadeau d'une valeur inestimable. Tu foules aux pieds ce que Jésus a fait. Et cette attitude-là va pas plaire à Dieu, c'est sûr, mais va t'éloigner de lui. Va t'éloigner de la grâce que Dieu veut te donner. Cette attitude-là ne te permettra pas de combler ce vide qu'il y a dans ton cœur. Cette attitude-là va te priver simplement d'une grâce que Dieu veut te donner, quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu veut te donner simplement parce qu'il t'aime. Une attitude de refus de ce don, de ce cadeau merveilleux qu'est le salut, qu'est la vie éternelle que Jésus peut te donner par son sacrifice à la croix, cette réconciliation avec Dieu. Si tu la refuses ce soir, alors tu te prives d'une grâce de Dieu. Et un jour, tu devras rendre un compte à Dieu pour ton comportement de ce soir. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Jésus a quitté son ciel de gloire. Je vais faire une courte lecture pendant que nous sommes recueillis, qui montre encore une fois ce que Jésus a fait. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Voilà comment Jésus lui-même s'est dépouillé alors qu'il était dans la gloire, dans les lieux célestes. Il est venu se faire petit, il est venu se faire aussi petit que les hommes. Et parmi les hommes, il s'est fait le plus petit. Et alors qu'il était le plus petit, il est allé dans la ville qui était plus bas que le niveau de la mer pour aller chercher celui qui était tout petit. Le Seigneur Jésus est venu pour aller chercher celui qui était perdu. Celui qui est perdu, le Seigneur Jésus vient pour le chercher et il est venu sur la croix pour venir te chercher. Peut-être que tu te sens perdu ce soir. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Peut-être que tu te sens perdu dans ta propre vie. Tu ne sais pas où tu en es. Tu ne sais pas où il faut aller. Tu ne sais pas comment faire. Tu te sens dans l'impasse totale. Le Seigneur Jésus est venu pour te chercher. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle à rentrer dans cette vie nouvelle qu'il veut te donner. Bartimée s'appelait fils d'Honoré. Et cet Honoré est peut-être Abraham finalement. Celui qui était cet homme de la promesse, il avait cette foi. Zachée a eu cette foi aussi de croire que Jésus pouvait venir pour lui combler de tout ce qui lui manquait. Viens simplement devant Dieu. Demande-lui la grâce. Demande-lui qu'il t'éclaire, que tu puisses comprendre. Comme Bartimée a eu ses yeux ouverts, demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses, toi, comprendre comment lui, il te voit. Et ensuite, comme Zachée, sois persévérant et demande à Dieu sa grâce pour qu'il puisse combler ce vide qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un désire faire cette expérience avec Dieu ?